Félicité Robert de Lamennais, Parole d'un croyant, 1833. Au peuple. Ce livre a été fait principalement pour vous. C'est à vous que je l'offre. Puisse-t-il, au milieu de tant de maux qui sont votre partage, de tant de douleurs qui vous affaissent sans presque aucun repos, vous ranimer et vous consoler un peu. Vous, qui portez le poids du jour, je voudrais qu'il pût être à votre pauvre âme fatiguée ce qu'est, sur le midi, au coin d'un champ, l'ombre d'un arbre, si chétif qu'il soit, à celui qui a travaillé tout le matin sous les ardents rayons du soleil. Vous vivez en des temps mauvais, mais ces temps passeront. Après les rigueurs de l'hiver, la Providence ramène une saison moins rude, et le petit oiseau bénit dans ses champs la main bienfaisante qui lui a rendu et la chaleur et l'abondance et sa compagne et son doux nid. Espérez et aimez. L'espérance adoucit tout et l'amour rend tout facile. Il y a en ce moment des hommes qui souffrent beaucoup parce qu'ils vous ont aimé beaucoup. Moi, leur frère, j'ai écrit le récit qu'ils vous ont fait pour vous et de ce qu'on a fait contre eux à cause de cela. Et lorsque la violence sera usée d'elle-même, je le publierai et vous le lirez avec des pleurs alors moins amères. Et vous aimerez aussi ces hommes qui vous ont tant aimé. À présent, si je vous parlais de leur amour et de leur souffrance, on me jetterait avec eux dans les cachots. J'y descendrai avec une grande joie si votre misère en pouvait être un peu allégée. Mais vous n'en retireriez aucun soulagement. Et c'est pourquoi il faut attendre et prier Dieu qu'il abrège l'épreuve. Maintenant, ce sont les hommes qui jugent et qui frappent. Bientôt, ce sera lui qui jugera. Heureux qui verra sa justice. Je suis vieux. Écoutez les paroles d'un vieillard. La terre est triste et desséchée, mais elle reverdira. La laine du méchant ne passera pas éternellement sur elle, comme un souffle qui brûle. Ce qui se fait, la Providence veut que cela se fasse pour votre instruction, afin que vous appreniez à être bon et juste quand votre heure viendra. Lorsque ceux qui abusent de la puissance auront passé devant vous, comme la boue des ruisseaux en un jour d'orage, alors vous comprendrez que le bien seul est durable et vous craindrez de souiller l'air que le vent du ciel aura purifié. Préparez vos âmes pour ce temps, car il n'est pas loin, il approche. Le Christ, mis en croix pour vous, a promis de vous délivrer. Croyez en sa promesse et, pour en hâter l'accomplissement, réformez ce qui en vous a besoin de réforme. Exercez-vous à toutes les vertus. Aimez-vous les uns les autres comme le Sauveur de la race humaine vous a aimé jusqu'à la mort. 1. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu dans les hauteurs des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des yeux les ouvre et regarde, car les temps approchent. Le Père a engendré son Fils, sa parole, son Verbe, et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous, et il est venu dans le monde, et le monde ne l'a pas connu. Le Fils a promis d'envoyer l'Esprit Consolateur, l'Esprit qui procède du Père et de lui, et qui est leur amour mutuel. Il viendra et renouvellera la face de la terre, et ce sera comme une seconde création. Il y a 18 siècles, le Verbe répandit la semence divine, et l'Esprit Saint la féconda. Les hommes l'ont vue fleurir. Ils ont goûté de ses fruits, des fruits de l'arbre de vie, replantés dans leur pauvre demeure. Je vous le dis, ce fut parmi eux une grande joie quand ils virent paraître la lumière et se sentirent tout pénétrés d'un feu céleste. À présent, la terre est redevenue ténébreuse et froide. Nos pères ont vu le soleil décliner. Quand il descendit sous l'horizon, toute la race humaine tressaillit. Puis il y eut dans cette nuit je ne sais quoi qui n'a pas de nom. Enfant de la nuit, le couchant est noir, mais l'Orient commence à blanchir. 2. Prêtez l'oreille et dites-moi d'où vient ce bruit confus, vague, étrange, que l'on entend de tous côtés. Posez la main sur la terre et dites-moi pourquoi elle a tressailli. Quelque chose que nous ne savons pas se remue dans le monde. Il y a là un travail de Dieu. Est-ce que chacun n'est pas dans l'attente? Est-ce qu'il y a un cœur qui ne batte pas? Fils de l'homme, monte sur les hauteurs et annonce ce que tu vois. Je vois à l'horizon un nuage livide et autour une lueur rouge comme le reflet d'un incendie. Fils de l'homme, que vois-tu encore? Je vois la mer soulever ses flots et les montagnes agiter leurs cimes. Je vois les fleuves changer leur cours, les collines chanceler et en tombant combler les vallées. Tout s'ébranle, tout se meut, tout prend un nouvel aspect. Fils de l'homme, que vois-tu encore? Je vois des tourbillons de poussière dans le lointain, et ils vont en tous sens et se choquent et se mêlent et se confondent. Ils passent sur les cités, et quand ils ont passé, on ne voit plus que la plaine. Je vois les peuples se lever en tumulte, et les rois pâlir sous leurs diadèmes. La guerre est entre eux, une guerre à mort. Je vois un trône, deux trônes brisés, et les peuples en dispersent les débris sur la terre. Je vois un peuple combattre comme l'archange Michel combattait contre Satan. Ses coups sont terribles, mais il est nu, et son ennemi est couvert d'une épaisse armure. Ô Dieu, il tombe, il est frappé à mort. Non, il n'est que blessé. Mais la Vierge Mère l'enveloppe de son manteau, lui sourit et l'emporte pour un peu de temps hors du combat. Je vois un autre peuple lutter sans relâche, épuiser de moment en moment des forces nouvelles dans cette lutte. Ce peuple a le signe du Christ sur le cœur. Je vois un troisième peuple sur lequel six rois ont mis le pied, et toutes les fois qu'il fait un mouvement, six poignards s'enfoncent dans sa gorge. Je vois sur un vaste édifice, à une grande hauteur dans les airs, une croix que je distingue à peine, parce qu'elle est couverte d'un voile noir. Fils de l'homme, que vois-tu encore? Je vois l'Orient qui se trouble en lui-même. Il regarde ses antiques palais croulés, ses vieux temples tomber en poudre, et il lève les yeux comme pour chercher d'autres grandeurs et un autre Dieu. Je vois vers l'Occident une femme à l'œil fier, au front serein. Elle trace d'une main ferme un léger sillon. Partout où le soc passe, je vois se lever des générations humaines qui l'invoquent dans leurs prières et la bénissent dans leurs chants. Je vois au septentrion des hommes qui n'ont plus qu'un reste de chaleur concentré dans leur tête et qui l'enivrent. Mais le Christ les touche de sa croix et le cœur recommence à battre. Je vois au midi des races affaissées sous je ne sais quelle malédiction. Un joug pesant les accable. Elles marchent courbées. Mais le Christ les touche de sa croix et elles se redressent. Fils de l'homme, que vois-tu encore? Il ne répond point. Crions de nouveau. Fils de l'homme, que vois-tu? Je vois Satan qui fuit, et le Christ entouré de ses anges, qui vient pour régner. 3. Et je fus transporté en esprit dans les temps anciens. Et la terre était belle et riche et féconde, et ses habitants vivaient heureux, parce qu'ils vivaient en frères. Et je vis le serpent qui se glissait au milieu d'eux. Il fixa sur plusieurs son regard puissant, et leur âme se troubla, et ils s'approchèrent. Et le serpent leur parla à l'oreille. Et après avoir écouté la parole du serpent, ils se levèrent et dirent : Nous sommes rois. Et le soleil pâlit, et la terre prit une teinte funèbre, comme celle du linceul qui enveloppe les morts. Et l'on entendit un sourd murmure, une longue plainte, et chacun trembla dans son cœur. En vérité, je vous le dis, ce fut comme au jour où l'abîme rompit ses digues, et où déborda le déluge des grandes eaux. La peur s'en alla de cabane en cabane, car il n'y avait point encore de palais. Et elle dit à chacun des choses secrètes qui le firent frissonner. Et ceux qui avaient dit « Nous sommes rois » prirent un glaive et suivirent la peur de cabane en cabane. Et il se passa là des mystères étranges, et il y eut des chaînes, des pleurs et du sang. Les hommes effrayés s'écrièrent: Le meurtre a reparu dans le monde. Et ce fut tout parce que la peur avait transi leur âme et ôté le mouvement à leurs bras. Et ils se laissèrent charger de fer, eux et leurs femmes et leurs enfants. Et ceux qui avaient dit « Nous sommes rois » creusèrent comme une grande caverne, et ils y enfermèrent toute la race humaine, ainsi qu'on enferme des animaux dans une étable. Et la tempête chassait les nuages, et le tonnerre grondait. Et j'entendis une voix qui disait « Le serpent a vaincu une seconde fois, mais pas pour toujours. » Après cela, je n'entendis plus que des voix confuses, des rires, des sanglots, des blasphèmes. Et je compris qu'il devait y avoir un règne de Satan avant le règne de Dieu. Et je pleurais, j'espérais. Et la vision que je vis était vraie, car le règne de Satan s'est accompli, et le règne de Dieu s'accomplira aussi. Et ceux qui ont dit « Nous sommes rois » seront à leur tour renfermés dans la caverne avec le serpent, et la race humaine en sortira, et ce sera pour elle comme une autre naissance, comme le passage de la mort à la vie. Ainsi soit-il. 4. Vous êtes fils d'un même père, et la même mère vous a allaité. Pourquoi donc ne vous aimez-vous pas les uns les autres comme des frères? Et pourquoi vous traitez-vous bien plutôt en ennemi? Celui qui n'aime pas son frère est maudit 7 fois, et celui qui se fait l'ennemi de son frère est maudit 70 fois 7 fois. C'est pourquoi les rois et les princes et tous ceux que le monde appelle grands ont été maudits. Ils n'ont point aimé leurs frères, et ils les ont traités en ennemis. Aimez-vous les uns les autres, et vous ne craindrez ni les grands, ni les princes, ni les rois. Ils ne sont forts contre vous que parce que vous n'êtes point unis, que parce que vous ne vous aimez point comme des frères les uns les autres. Ne dites point « Celui-là est d'un peuple et moi je suis d'un autre peuple, car tous les peuples ont eu sur la terre le même Père qui est Adam et ont dans le ciel le même Père qui est Dieu. Si l'on frappe un membre, tout le corps souffre. Vous êtes tous un même corps et on ne peut opprimer l'un de vous que tous ne soient opprimés. Si un loup se jette sur un troupeau, il ne le dévore pas tout entier sur le champ. Il saisit un mouton et le mange. Puis, sa faim étant revenue, il en saisit un autre et le mange, et ainsi jusqu'au dernier, car sa faim revient toujours. Ne soyez pas comme les moutons qui, Lorsque le loup a enlevé l'un d'eux, s'effraient un moment et puis se remettent à paître, car, pensent-ils, peut-être se contentera-t-il d'une première ou d'une seconde proie. Et qu'ai-je à faire de m'inquiéter de ce qu'il dévore? Qu'est-ce que cela me fait à moi? Il ne me restera que plus d'herbe. En vérité, je vous le dis, ceux qui pensent ainsi en eux-mêmes sont marqués pour être la pâture de la bête qui vit de chair et de sang. 5. Quand vous voyez un homme conduit en prison ou au supplice, ne vous pressez pas de dire « Celui-là est un homme méchant qui a commis un crime contre les hommes. » Car peut-être est-ce un homme de bien qui a voulu servir les hommes et qui en est puni par leurs oppresseurs. Quand vous voyez un peuple chargé de fer et livré aux bourreaux, ne vous pressez pas de dire « Ce peuple est un peuple violent qui voulait troubler la paix de la terre. » Car peut-être est-ce un peuple martyr qui meurt pour le salut du genre humain. Il y a 18 siècles, dans une ville d'Orient, les pontifes et les rois de ce temps clouèrent sur une croix, après l'avoir battu de verge, un séditieux, un blasphémateur, comme il l'appelait. Le jour de sa mort, il y eut une grande terreur dans l'enfer et une grande joie dans le ciel, car le sang du juste avait sauvé le monde. 6. Pourquoi les animaux trouvent-ils leur nourriture chacun suivant son espèce? C'est que nul parmi eux ne dérobe celle d'autrui, et que chacun se contente de ce qui suffit à ses besoins. Si dans la ruche une abeille disait « Tout le miel qui est ici est à moi », et que là-dessus elle se mit à disposer comme elle l'entendrait des fruits du travail commun, que deviendraient les autres abeilles? La terre est comme une grande ruche, et les hommes sont comme des abeilles. Chaque abeille a droit à la portion de miel nécessaire à sa subsistance. Et si parmi les hommes, il en est qui manque de ce nécessaire, c'est que la justice et la charité ont disparu d'au milieu d'eux. La justice, c'est la vie, et la charité, c'est encore la vie, une plus douce et plus abondante vie. Il s'est rencontré de faux prophètes qui ont persuadé à quelques hommes que tous les autres étaient nés pour eux, et que ceux-ci ont cru. Les autres l'ont cru aussi sur la parole des faux prophètes. Lorsque cette parole de mensonge prévalut, les anges pleurèrent dans le ciel, car ils prévirent que beaucoup de violences et beaucoup de crimes et beaucoup de maux allaient déborder sur la terre. Les hommes, égaux entre eux, sont nés pour Dieu seul. Et quiconque dit une chose contraire dit un blasphème. Que celui qui veut être le plus grand parmi vous soit votre serviteur, et que celui qui veut être le premier parmi vous soit le serviteur de tous. La loi de Dieu est une loi d'amour, et l'amour ne s'élève point au-dessus des autres, mais il se sacrifie aux autres. Celui qui dit dans son cœur « Je ne suis pas comme les autres hommes », mais les autres hommes m'ont été donnés pour que je leur commande et que je dispose d'eux et de ce qui est à eux à ma fantaisie. Celui-là est fils de Satan. Et Satan est le roi de ce monde, car il est le roi de tous ceux qui pensent et agissent ainsi. Et ceux qui pensent et agissent ainsi se sont rendus, par ses conseils, les maîtres du monde. Mais leur empire n'aura qu'un temps, et nous touchons à la fin de ce temps. Un grand combat sera livré, et l'ange de la justice et l'ange de l'amour combattront avec ceux qui se seront armés pour rétablir parmi les hommes le règne de la justice et le règne de l'amour. Et beaucoup mourront dans ce combat, et leur nom restera sur la terre comme un rayon de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, vous qui souffrez, prenez courage, fortifiez votre cœur. Car demain sera le jour de l'épreuve, le jour où chacun devra donner avec joie sa vie pour ses frères, et celui qui suivra sera le jour de la délivrance. 7. Lorsqu'un arbre est seul, Il est battu des vents et dépouillé de ses feuilles. Et ses branches, au lieu de s'élever, s'abaissent, comme si elles cherchaient la terre. Lorsqu'une plante est seule, ne trouvant point d'abri contre l'ardeur du soleil, elle languit et se dessèche et meurt. Lorsque l'homme est seul, le vent de la puissance le courbe vers la terre, et l'ardeur de la convoitise des grands de ce monde absorbe la sève qui le nourrit. Ne soyez donc point comme la plante et comme l'arbre qui sont seuls, mais unissez-vous les uns aux autres et appuyez-vous et abritez-vous mutuellement. Tandis que vous serez désunis et que chacun ne songera qu'à soi, vous n'avez rien à espérer que souffrance et malheur et oppression. Qu'y a-t-il de plus faible que le passereau et de plus désarmé que l'hirondelle? Cependant, quand paraît l'oiseau de proie, les hirondelles et les passereaux parviennent à le chasser en se rassemblant autour de lui et le poursuivant tous ensemble. Prenez exemple sur le passereau et sur l'hirondelle. Celui qui se sépare de ses frères, la crainte le suit quand il marche, s'assied près de lui quand il repose, et ne le quitte pas même durant son sommeil. Donc, si l'on vous demande combien êtes-vous, répondez, nous sommes un, car nos frères c'est nous, et nous c'est nos frères. Dieu n'a fait ni petit, ni grand, ni maître, ni esclave, ni roi, ni sujet. Il a fait tous les hommes égaux. Mais, entre les hommes, quelques-uns ont plus de force ou de corps ou d'esprit ou de volonté, et ce sont ceux-là qui cherchent à s'assujettir les autres lorsque l'orgueil ou la convoitise étouffent en eux l'amour de leurs frères. Et Dieu savait qu'il en serait ainsi, et c'est pourquoi il a commandé aux hommes de s'aimer afin qu'ils fussent unis et que les faibles ne tombassent point sous l'oppression des forts, car celui qui est plus fort qu'un seul sera moins fort que deux, et celui qui est plus fort que deux sera moins fort que quatre. Et ainsi, les faibles ne craindront rien lorsque, s'aimant les uns les autres, ils seront unis véritablement. Un homme voyageait dans la montagne, et il arriva en un lieu où un gros rocher, ayant roulé sur le chemin, le remplissait tout entier. Et, hors du chemin, il n'y avait point d'autre issue, ni à gauche, ni à droite. Or, cet homme, voyant qu'il ne pouvait continuer son voyage à cause du rocher, essaya de le mouvoir pour se faire un passage. Et il se fatigua beaucoup à ce travail, et tous ses efforts furent vains. Ce que voyant, il s'assit plein de tristesse et dit « Que sera-ce de moi lorsque la nuit viendra et me surprendra dans cette solitude, sans nourriture, sans abri, sans aucune défense, à l'heure où les bêtes féroces sortent pour chercher leur proie ?» Et comme il était absorbé dans cette pensée, un autre voyageur survint, et celui-ci, ayant fait ce qu'avait fait le premier et s'étant trouvé aussi impuissant à remuer le rocher, s'assit en silence et baissa la tête. Et après celui-ci, il en vint plusieurs autres, et aucun ne put mouvoir le rocher, et leur crainte à tous était grande. Enfin l'un d'eux dit aux autres, « Mes frères, prions notre Père qui est dans les cieux. Peut-être aura-t-il pitié de nous dans cette détresse. » Et cette parole fut écoutée, et ils prièrent de cœur le Père qui est dans les cieux. Et quand ils eurent prié, celui qui avait dit « Prions » dit encore « Mes frères, ce qu'aucun de nous n'a pu faire seul, qui sait si nous ne le ferons pas tous ensemble ?» Et ils se levèrent, et tous ensemble ils poussèrent le rocher, et le rocher céda, et ils poursuivirent leur route en paix. Le voyageur, c'est l'homme. Le voyage, c'est la vie. Le rocher, ce sont les misères qu'il rencontre à chaque pas sur sa route. Aucun homme ne saurait soulever seul ce rocher. Mais Dieu en a mesuré le poids, de manière qu'il n'arrête jamais ceux qui voyagent ensemble. 8. Au commencement, le travail n'était pas nécessaire à l'homme pour vivre. La terre fournissait d'elle-même à tous ses besoins. Mais l'homme fit le mal, et comme il s'était révolté contre Dieu, la terre se révolta contre lui. Il lui arriva ce qui arrive à l'enfant qui s'élève contre son père. Le père lui retire son amour, et il l'abandonne à lui-même. Et les serviteurs de la maison refusent de le servir. Et il s'en va, cherchant çà et là sa pauvre vie, en mangeant le pain qu'il a gagné à la sueur de son visage. Depuis lors, donc, Dieu a condamné tous les hommes au travail, et tous ont leur labeur, soit du corps, soit de l'esprit. Et ceux qui disent « je ne travaillerai point » sont les plus misérables. Car, comme les vers dévorent un cadavre, les vices les dévorent, et si ce ne sont les vices, c'est l'ennui. Et quand Dieu voulut que l'homme travaillât, il cacha un trésor dans le travail, parce qu'il est père, et que l'amour d'un père ne meurt point. Et celui qui fait un bon usage de ce trésor, et qui ne le dissipe point en insensé, il vient pour lui un temps de repos. Et alors il est comme les hommes étaient au commencement. Et Dieu leur donna encore ce précepte. Aidez-vous les uns les autres, car il y en a parmi vous de plus forts et de plus faibles, d'infirmes et de bien portants. Et cependant, tous doivent vivre. Et si vous faites ainsi, tous vivront, parce que je récompenserai la pitié que vous aurez eue pour vos frères, et je rendrai votre sueur féconde. Et ce que Dieu a promis s'est vérifié toujours, et jamais on n'a vu celui qui aide ses frères manquer de pain. Or, il y eut autrefois un homme méchant et maudit du ciel, et cet homme était fort, et il haïssait le travail, de sorte qu'il se dit, « Comment ferai-je ? Si je ne travaille point, je mourrai, et le travail m'est insupportable. » Alors, il lui entra une pensée de l'enfer dans le cœur. Il s'en alla de nuit, et saisit quelques-uns de ses frères pendant qu'ils dormaient, et les chargea de chaînes. « Car, disait-il, je les forcerai avec les verges et le fouet à travailler pour moi, et je mangerai le fruit de leur travail. » Et il fit ce qu'il avait pensé. Et d'autres, voyant cela, en firent autant. Et il n'y eut plus de frères, il y eut des maîtres et des esclaves. Ce jour fut un jour de deuil sur toute la terre. Longtemps après, il y eut un autre homme, plus méchant que le premier et plus maudit du ciel. Voyant que les hommes s'étaient partout multipliés et que leur multitude était innombrable, il se dit « Je pourrais bien peut-être en enchaîner quelques-uns et les forcer à travailler pour moi. Mais il faudrait les nourrir et cela diminuerait mon gain. Faisons mieux, qu'ils travaillent pour rien. Ils mourront à la vérité. Mais comme leur nombre est grand, j'amasserai des richesses avant qu'ils aient diminué beaucoup. Et il en restera toujours assez. » Or, toute cette multitude vivait de ce qu'elle recevait en échange de son travail. Ayant donc parlé de la sorte, il s'adressa en particulier à quelques-uns, et il leur dit « Vous travaillez pendant 6 heures et l'on vous donne une pièce de monnaie pour votre travail. Travaillez pendant 12 heures et vous gagnerez 2 pièces de monnaie, et vous vivrez bien mieux, vous, vos femmes et vos enfants. » Et ils le crurent. Il leur dit ensuite, « Vous ne travaillez que la moitié des jours de l'année. Travaillez tous les jours de l'année, et votre gain sera double. » Et ils le crurent encore. Or, il arriva de là que la quantité de travail étant devenue plus grande de moitié, sans que le besoin de travail fût plus grand, la moitié de ceux qui vivaient auparavant de leur labeur ne trouvèrent plus personne qui les employât. Alors, l'homme méchant qu'ils avaient cru leur dit, « Je vous donnerai du travail à tous, à la condition que vous travaillerez le même temps, et que je ne vous paierai que la moitié de ce que je vous payais. Car je veux bien vous rendre service, mais je ne veux pas me ruiner. » Et comme ils avaient faim, eux, leurs femmes et leurs enfants, ils acceptèrent la proposition de l'homme méchant, et ils le bénirent, car, disaient-ils, il nous donne la vie. Et, continuant de les tromper de la même manière, l'homme méchant augmenta toujours plus leur travail et diminua toujours plus leur salaire. Et ils mouraient faute du nécessaire. Et d'autres s'empressaient de les remplacer, car l'indigence était devenue si profonde dans ce pays que les familles entières se vendaient pour un morceau de pain. Et l'homme méchant qui avait menti à ses frères amassa plus de richesses que l'homme méchant qui les avait enchaînés. Le nom de celui-ci est tyran, l'autre n'a de nom qu'en enfer. 9. Vous êtes dans ce monde comme des étrangers. Allez au nord et au midi, à l'orient et à l'occident. En quelque endroit que vous vous arrêtiez, vous trouverez un homme qui vous en chassera, en disant « Ce champ est à moi ». Et, après avoir parcouru tous les pays, vous reviendrez, sachant qu'il n'y a nulle part un pauvre petit coin de terre où votre femme en travail puisse enfanter son premier-né, où vous puissiez reposer après votre labeur, où, arrivé au dernier terme, vos enfants puissent enfouir vos os comme dans un lieu qui soit à vous. C'est certes là une grande misère, et pourtant, vous ne devez pas vous trop affliger, car il est écrit de celui qui a sauvé la race humaine, « Le renard a sa tanière, les oiseaux du ciel ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Or, il s'est fait pauvre pour vous apprendre à supporter la pauvreté. » Ce n'est pas que la pauvreté vienne de Dieu, mais elle est une suite de la corruption et des mauvaises convoitises des hommes. Et c'est pourquoi il y aura toujours des pauvres. La pauvreté est fille du péché, dont le germe est en chaque homme, et de la servitude, dont le germe est en chaque société. Il y aura toujours des pauvres, parce que l'homme ne détruira jamais le péché en soi. Il y aura toujours moins de pauvres, parce que peu à peu, la servitude disparaîtra de la société. Voulez-vous travailler à détruire la pauvreté? Travaillez à détruire le péché, en vous premièrement, puis dans les autres, et la servitude dans la société. Ce n'est pas en prenant ce qui est à autrui qu'on peut détruire la pauvreté, car comment, en faisant des pauvres, diminuerait-on le nombre des pauvres? Chacun a droit de conserver ce qu'il a, sans quoi personne ne posséderait rien. Mais chacun a droit d'acquérir par son travail ce qu'il n'a pas, sans quoi la pauvreté serait éternelle. Affranchissez donc votre travail, affranchissez vos bras, et la pauvreté ne sera plus parmi les hommes qu'une exception permise de Dieu pour leur rappeler l'infirmité de leur nature et le secours mutuel et l'amour qu'ils se doivent les uns aux autres. 10. Lorsque toute la terre gémissait dans l'attente de la délivrance, une voix s'éleva de la Judée, la voix de celui qui venait souffrir et mourir pour ses frères, et que quelques-uns appelaient par dédain le fils du charpentier. Le fils du charpentier, pauvre et délaissé en ce monde, disait « Venez à moi, vous tous qui haletez sous le poids du travail, et je vous ranimerai. » Et depuis ce temps jusqu'à ce jour, pas un de ceux qui ont cru en lui n'est demeuré sans soulagement dans sa misère. Pour guérir les maux qui affligent les hommes, il prêchait à tous la justice qui est le commencement de la charité, et la charité qui est la consommation de la justice. Or, la justice commande de respecter le droit d'autrui, et quelquefois, La charité veut que l'on abandonne le sien même à cause de la paix ou de quelque autre bien. Que serait le monde si le droit cessait d'y régner? Si chacun n'était en sûreté de sa personne et ne jouissait sans crainte de ce qui lui appartient. Mieux vaudrait vivre au sein des forêts que dans une société ainsi livrée au brigandage. Ce que vous prendrez aujourd'hui, un autre vous le prendra demain. Les hommes seront plus misérables que les oiseaux du ciel, à qui les autres oiseaux ne ravissent ni leur pâture, ni leur nid. Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est celui qui n'a point encore de propriété. Que souhaite-t-il? De cesser d'être pauvre, c'est-à-dire d'acquérir une propriété. Or, celui qui dérobe, qui pille, que fait-il? Sinon, abolir autant qu'il est en lui le droit de propriété. Piller, voler, c'est donc attaquer le pauvre aussi bien que le riche. C'est renverser le fondement de toute société parmi les hommes. Quiconque ne possède rien ne peut arriver à posséder que parce que d'autres possèdent déjà, puisque cela seul peut lui donner quelque chose en échange de son travail. L'ordre est le bien, l'intérêt de tous. Ne buvez point à la coupe du crime. Au fond est la mère détresse et l'angoisse et la mort. 11. Et j'avais vu les maux qui arrivent sur la terre, le faible opprimé, le juste mendiant son pain, le méchant élevé aux honneurs et regorgeant de richesses, l'innocent condamné par des juges iniques et ses enfants errant sous le soleil. Et mon âme était triste, et l'espérance en sortait de toutes parts comme d'un vase brisé. Et Dieu m'envoya un profond sommeil. Et dans mon sommeil, je vis comme une forme lumineuse, debout près de moi. Un esprit, dont le regard doux et perçant pénétrait jusqu'au fond de mes pensées les plus secrètes. Et je tressaillis, non de crainte ni de joie, mais comme d'un sentiment qui serait un mélange inexprimable de l'une et de l'autre. Et l'esprit me dit « Pourquoi es-tu triste ?» Et je répondis en pleurant « Oh, voyez les maux qui sont sur la terre !» Et la forme céleste se prit à sourire, d'un sourire ineffable, et cette parole vint à mon oreille. Ton œil ne voit rien qu'à travers ce milieu trompeur que les créatures nomment le temps. Le temps n'est que pour toi. Il n'y a point de temps pour Dieu. Et je me taisais, car je ne comprenais pas. Tout à coup l'esprit, « Regarde, » dit-il, et sans qu'il y eût désormais pour moi, ni avant, ni après, en un même instant, je vis à la fois ce que, dans leur langue infirme et défaillante, les hommes appelaient « passé, présent, avenir ». Et tout cela n'était qu'un. Et cependant, pour dire ce que je vis, il faut que je redescende au sein du temps. Il faut que je parle la langue infirme et défaillante des hommes. Et toute la race humaine me paraissait comme un seul homme. Et cet homme avait fait beaucoup de mal. Peu de bien, avait senti beaucoup de douleur, peu de joie. Et il était là, gisant dans sa misère, sur une terre tantôt glacée, tantôt brûlante, maigre, affamé, souffrant, affaissé d'une langueur entremêlée de convulsions, accablé de chaînes forgées dans la demeure des démons. Sa main droite en avait chargé sa main gauche, et la gauche en avait chargé la droite. Et au milieu de ses rêves mauvais, il s'était tellement roulé dans ses fers que tout son corps en était couvert et serré. Car dès qu'il le touchait seulement, il se collait à sa peau comme du plomb bouillant. Ils entraient dans la chair et n'en sortaient plus. Et c'était là l'homme, je le reconnus. Et voilà, un rayon de lumière partait de l'Orient, et un rayon d'amour du Midi, et un rayon de force du Septentrion. Et ces trois rayons s'unirent sur le cœur de cet homme. Et quand partit le rayon de lumière, une voix dit « Fils de Dieu, frère du Christ, sache ce que tu dois savoir. » Et quand partit le rayon d'amour, une voix dit « Fils de Dieu, frère du Christ, aime qui tu dois aimer. » Et quand partit le rayon de force, une voix dit « Fils de Dieu, frère du Christ, fais ce qui doit être fait. » Et quand les trois rayons se furent unis, les trois voix s'unirent aussi. Et il s'en forma une seule voix qui dit « Fils de Dieu, frère du Christ, sers Dieu et ne sers que lui seul. » Et alors, ce qui jusque-là ne m'avait semblé qu'un homme, m'apparut comme une multitude de peuples et de nations. Et mon premier regard ne m'avait pas trompé, et le second ne me trompait pas non plus. Et ces peuples et ces nations, se réveillant sur leur lit d'angoisse, commencèrent à se dire « D'où viennent nos souffrances et notre langueur, et la faim et la soif qui nous tourmentent, et les chaînes qui nous courbent vers la terre et entrent dans notre chair ?» Et leur intelligence s'ouvrit, et ils comprirent que les fils de Dieu, les frères du Christ, n'avaient pas été condamnés par leur père à l'esclavage, et que cet esclavage était la source de tous leurs maux. Chacun donc essaya de rompre ses fers, mais nul n'y parvint. Et ils se regardèrent les uns et les autres avec une grande pitié. Et, l'amour agissant en eux, ils se dirent « Nous avons tous la même pensée. Pourquoi n'aurions-nous pas tous le même cœur ? Ne sommes-nous pas tous les fils du même Dieu et les frères du même Christ ? Sauvons-nous ou mourons ensemble. » Et ayant dit cela, ils sentirent en eux une force divine, et j'entendis leurs chaînes craquer, et ils combattirent 6 jours contre ceux qui les avaient enchaînés. Et le 6e jour, ils furent vainqueurs, et le 7e fut un jour de repos. Et la terre, qui était sèche, reverdit, et tous purent manger de ses fruits, et aller et venir, sans que personne leur dît « Où allez-vous ? On ne passe point ici. » Et les petits enfants cueillaient des fleurs et les apportaient à leur mère, qui doucement leur souriait. Et il n'y avait ni pauvres ni riches, mais tous avaient en abondance les choses nécessaires à leurs besoins, parce que tous s'aimaient et s'aidaient en frères. Et une voix, comme la voix d'un ange, retentit dans les cieux. Gloire à Dieu qui a donné l'intelligence, l'amour, la force à ses enfants. Gloire au Christ qui a rendu à ses frères la liberté.